Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, aujourd'hui dans À voix haute, j'ai le plaisir de lire les premières pages du roman Orne d'Alain Emery, paru en 2021 aux très belles éditions Les Terres du Couchant. Ce roman a été en sélection pour le prix Louis Guillou 2021. Si je fermais les yeux à cet instant, je le verrais au cœur de cette nuit chaude et venteuse de juillet, debout dans la buanderie, passant avec soin ses mains sous l'eau froide, s'attardant sur ses doigts, sur leurs jointures écorchées. Si je fermais les yeux, je le verrais dans cette pénombre confuse, mâchoire serrée sur une douleur qu'à 11 ans, je pressens mêlée d'une fureur sans égale, tandis que sur l'émail blanc de l'évier coule un peu de sang, quelques filaments et volutes rougeâtres qui disparaissent à mesure dans la bonde. Oui, je le verrai, défiant mon regard tendre et désemparé, plongeant ses yeux, dont j'écrirais un jour qu'ils avaient la couleur d'un bronze florentin, la patine d'or sous le bleu carnassier, ses yeux de père dans les miens, son seul fils, paraissant y chercher ce qui ne s'y trouverait que des années plus tard. Si je fermais les yeux maintenant, je le verrais avancer vers moi sa main tuméfiée, encore nerveuse et frissonnante. Je sentirais ses doigts mouillés ébouriffant mes cheveux. Je l'entendrais me répéter que ce n'est rien, qu'il est tard, qu'il faut aller dormir. Et je le verrais, une dernière fois, se découpant dans l'embrasure de la porte, lointain, et désolé de l'être. Mais je veux voir le soleil se lever, ici, sur mes terres. J'ai roulé toute la nuit pour arriver à temps. Le jour ne va plus tarder, et je l'attends sous la tonnelle, couverte de ce raisin aigre que Rachel et moi sommes les seuls à aimer. J'aurais pu la rejoindre, me glisser dans notre lit et quémander la chaleur de ses bras, mais je ne songe qu'à la délivrance des premiers feux de l'aube. Je ne veux rien d'autre à cet instant que voir le soleil se lever. Au-dessus de moi, le ciel de juillet où brûlent pour des siècles des cailloux que mon père me montrait du doigt, les ours, Andromède, les chiens de chasse, et tout autour de moi, encore mauves à cette heure, les montagnes trapues. J'ai écrit dans un poème qu'elles étaient pareilles à de vieux lutteurs éventrés, couchés dans leurs entrailles, dont les os blancs et crevassés transpercent la toison fumante. Elles sont bien davantage. C'est ici que je désire vivre et mourir, je le sais, à présent. L'ironie du sort veut que je doive cette paix définitive à une lettre anonyme. Ce pli qui a provoqué ma colère, m'a conduite à retourner là-bas vers les origines, au-devant des plaies que je croyais pourtant guéries et dont j'allais jusqu'à me persuader qu'elles n'avaient pour la plupart jamais existé, ce pli obscène aura été, au bout du compte, une providence. Je n'avais pas la moindre idée de ce que j'espérais trouver en montant vers le nord, mais je me souviens avoir éprouvé, en calant mon maigre bagage dans le coffre, une tristesse insolite, comme si je venais tout juste d'apprendre la mort de ceux qui nous avaient quittés 20 ans plus tôt. La douleur, depuis si longtemps distancée, me rattrapait soudain. J'avais la gorge nouée en quittant Rachel. Elle avait compris, bien avant moi, qu'il faudrait un jour ou l'autre en passer par là, et soulager une fois pour toutes, disait-elle en me prenant les mains, les chagrins en souffrance. J'y pensais encore sur la route, Quand mon regard s'égarait dans le rétroviseur, je trouvais mes yeux sombres, d'une déroutante opacité. Mon esprit s'évertuait sans doute à dresser une barrière entre mon corps et mes sentiments. Je me reconnaissais à peine. Dans cette nuit morne que lacéraient mes phares, j'ai cru qu'ils apparaîtraient. Que la voix de mon père se mêlerait à celle de mon grand-père, que toutes deux m'intimeraient de renoncer, de tirer un trait sur le passé, de retourner vers la seule personne au monde qui avait besoin de moi à cet instant. Ils n'ont pas dit un mot. J'ai fait le chemin d'une traite. L'aube avait la chair d'un fruit. Je pensais que ma mémoire me trahirait, qu'elle aurait au fil des ans faussé le jeu, troublé la vérité des lieux, mais j'ai trouvé le pays intact, identique aux souvenirs que j'en avais. Au nord, une mer ceinturée de fer et des falaises, du haut desquels, disait mon grand-père, s'était un jour jeté des veuves, dont les parois abruptes vont en s'amenuisant jusqu'à l'estuaire où, 5 siècles plus tôt, s'est mussé le village. Un cheptel de 700 et quelques têtes penché sur la besogne et les chapelets. Un troupeau dépourvu de toute grâce, beuglant sans fin dans le glacial labyrinthe des maisons étroites et bancales, tassé sous le ciel changeant, et battu les 3/4 de l'année par des pluies biaises. Je ne suis pas des leurs, ne l'ai jamais été, mais j'ai pour ce vieux port une sorte de tendresse. La vase, ce lard brun d'où suinte un purin noir et nauséabond, l'engloutit peu à peu. La rivière, à peine un filet d'eau balafrant l'estrand, s'y déverse avec une telle lenteur qu'elle semble au contraire y prendre racine pour remonter à travers champs dans son garrot d'aulne et de sureau vers le bois de C où je cavalais étant gosse. Sur l'autre rive, vers l'ouest, court une lande rase, jetée en travers du granit tel un épais velours grenat, balafré et poisseux de sel, dans les plis duquel j'ai vu ce matin-là, saupoudré d'argent, les frondaisons décharnées des grands pins. Je n'ai eu aucun mal à retrouver le chemin, et dès lors que je suis descendue de la voiture, j'ai eu la certitude, violente et formelle, d'être tout à la fois à ma place et à la merci du sentiment, de l'indicible, pieds et poings liés. La maison m'attendait. C'est en bordure du quai, à flanc de colline, là où s'adossent au soleil de minuscules jardins de marins, 100 mètres carrés chacun à tout casser, où poussent de travers des bananiers, des palmiers et des aloès, autrefois glanées à l'autre bout du globe. J'ai reconnu la rangée d'arômes, calice de nacre et goupillon jaune d'œuf, le fer à cheval cloué sur la pierre rose, le portillon blanc, les fenêtres couronnées de cette mosaïque rose et bleu roi au centre de laquelle, composée de petits carreaux de faïence noire, 3 palmiers abritent un lézard bifide qui semble nous signifier depuis toujours que ce qui a été tranché un jour ou l'autre repousse. J'ai senti sur ma peau les odeurs de saumure et de cisale. Alors, j'ai cru le voir, ce grand-père auquel nous rendions visite 1 ou 2 fois par an, ce lascar autrefois surnommé le Dog par ses camarades caporniers du temps des courses en mer, mais que nous tous appelions désormais bonhomme. Il m'est apparu soudain, 20 ans après sa mort, incroyablement vivant, accroupi au milieu de ses 4 chiens, bâtards de griffons et de molosses, par d'autres battus à mort, qu'il avait recueillis, à moitié fous et borgnés pour la plupart, et menaçant de leur chicot noir ceux qui avaient le malheur de les croiser. Lui, au milieu d'eux, les caressant et les repoussant à la fois, tel que je l'avais toujours connu, davantage usé par les nuits de veille, les coups de tabac et les rugueux alcools que par les années. Vieillard, malgré tout, et condamné par la force des choses à demeurer à quai. Les marins à terre sont des chiens à la tâche, nous disait-il parfois. J'entends encore sa voix, rêche et rocailleuse, voilée par les vers de prune et le tabac brun. Cette bande de vieux fauves aux culs pelés, ces carnes qui jappaient comme on s'étrangle et ne voyaient que par lui l'ancien Bosco, c'était en quelque sorte son ultime équipage. Au milieu d'eux, il apparaissait tel qu'il était à présent, spectre désemparé, pareil à ces navires livrés à eux-mêmes, désertés par les hommes, et dont l'ombre, qui ne cesse d'errer à travers le globe que pour brutalement sombrer, tranche sur les mers de glace et d'écume. La seconde suivante, il m'a semblé le voir à nouveau, sous les écailles brunes du toit, derrière cette haute lucarne aussi ronde qu'un hublot, où il venait se caler les soirs de gros temps. Fort imposant dans l'embrasure, empreint d'un mélange de gravité et d'inquiétude, les yeux rivés vers le large où se démenaient à cette heure des hommes, certes inconnus, mais dont les silhouettes épousaient celles de tous les camarades morts à ses côtés, disparus corps et biens. Cet étroit grenier, j'y étais monté avec lui l'année de mes 7 ans, un soir de tempête. Le vent d'ouest rugissant donnait de grands coups d'épaule dans les murs et la charpente grinçait autant que la coque d'un navire. La pluie fouettait les vitres et le souffle d'air qui passait entre les battants disjoints de la fenêtre, une respiration véloce, animale, avait un goût de sel. Le sourire gourmand de bonhomme m'avait sur le coup semblé incongru. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il était ici à son affaire, tout simplement à sa place.
voix haute, Meredith Ledez.
J'avais encore l'esprit perché là-haut quand Suzanne s'est plantée sur le seuil. La petite bonne sur laquelle Bonhomme avait un jour mis le grappin. À cette époque, l'un et l'autre étaient veufs depuis peu. Les 30 et quelques années qui les séparaient n'avaient soucié que les mauvaises langues. On racontait qu'elle n'avait pas voulu d'une bague au doigt, et la légende voulait qu'à cause de cela, on ait excommunié mon grand-père, qui s'en moquait. Je l'ai regardée. Suzanne était toujours la même, à l'évidence un peu moins brune, mais aussi pâle et rude que dans mon enfance, avec ses yeux de nacre pilés au fond desquels se balançait toute une constellation de cilices et d'albâtre. Elle m'a ouvert les bras, je m'y suis jetée. Je l'ai suivie dans la maison. Rien n'avait changé. Sur la patère, à l'entrée, pendait encore le caban de mon grand-père, comme si ce dernier venait tout juste de l'ôter et nous attendait à la cuisine, devant un verre de ce vieux rhum couleur de miel, dont il conservait, caché sous l'escalier, une dizaine de touques cachetées à la cire. Tout était en place. Les babioles sculptées à bord dans les vertèbres des requins, le baromètre de bronze et d'onyx qui venait de Valparaiso et auquel seul Bonhomme avait le droit de toucher. Pour un peu, je l'aurais entendu tapoter délicatement le verre, en guettant les sursauts de l'aiguille. Sur le buffet, la casquette en gros drap bleu frappée de l'encre de marine. J'ai reconnu les cartes des vents et courants pour l'Atlantique Sud, épinglées dans le couloir, et encadrées avec soin, les photographies des équipages avec lesquels il avait bourlingué. En faisceau, dans un pot à lait, l'attendaient ses cannes. Il avait failli perdre sa jambe dans une ornière de la Somme en 1916, à l'arrière, tandis qu'il escortait un convoi de munitions. Sans qu'on sût quelle mouche l'avait piqué, un canasson, une bête noire et gigantesque, avait désarçonné l'officier qui les accompagnait. « Un de la haute, » disait Bonhomme en levant les yeux au ciel. Un cavalier farouche, mais sans âme, sans doute brutal de naissance. La bête, s'écroulant à son tour, l'avait poussé, lui simple troufion, sous la roue d'un chariot de munitions. La jambe s'était salement brisée en 3 morceaux. Depuis, il tirait cette patte folle derrière lui, une branche de bois mort. Certaines nuits, avait-il un jour avoué à mon père, il rêvait encore de cet alezan brûlé dont l'ombre furieuse fondait sur lui. Il voyait dans ses yeux blancs grandir une terreur sans nom, et son hennissement crépusculaire envahissait sa chambre. « Juste après, disait-il, c'est le bruit obscène de ses os se brisant qui remplissait l'obscurité. » Suzanne se contentait de sourire, et j'ai encore bien du mal à savoir si elle agissait de la sorte parce qu'elle était simplement heureuse de me voir, et elle ne le dirait pas ainsi, ou si elle se félicitait d'avoir cru durant ces 20 dernières années, contre la raison même, que le temps se chargerait de me ramener à elle. Je lui ai raconté ma courte vie, Rachel et l'enfant que nous attendons, mes livres, mes montagnes. Elle n'a pas dit si elle était fière de moi ou reconnaissante d'entendre ces choses de ma bouche, mais je ne peux oublier la façon dont elle a pris mes mains dans les siennes. Bien sûr, nous avons parlé d'eux, les Marceaux. Alexis dit le dog, dit Bonhomme, et son seul fils Michel. De ce qui chaque fois présidait à leur retrouvaille, cette communion muette et touchante dont ma mère et moi étions exclus. Suzanne nous répétait qu'il fallait les laisser, qu'ils avaient bien des choses à se dire, tous les deux. Mais dès que j'ai pu galoper, nous étions alors en 1950, j'avais 7 ans, je me suis mise à les suivre. Je parvenais toujours à les rejoindre. Je les savais familiers du sentier côtier et du vieux port où ils restaient parfois des heures à cheval sur le parapet à observer les bancs de mulets qui les ardaient dans les eaux grasses. À marée basse, il trouvait refuge dans un méandre de la rivière, à cet endroit où deux épaves, bréchets de bois et de fer blanchis par le sel et la pluie que digère peu à peu la vase noire, achèvent de pourrir au milieu des aigrettes et des cormorans. La lumière y est douce. Ils s'asseyaient l'un en face de l'autre, sur deux ergots de grès, nichés sous un aulne biscornu, et restaient ainsi sans bouger. Je prenais place à leur côté et demeurais silencieux. Ils semblaient ne pas me voir. Si Bonhomme était bien luné et que lui venait l'envie de fouiller sa mémoire, il se livrait un peu. Je l'entends encore, évoquant un camarade de bordée, un basque robuste et solaire, tel qu'il l'était à la toute dernière seconde de sa vie, avant qu'une perfide rafale de grésil ne l'arrachât à la mâture pour le précipiter 20 mètres plus bas sur le pont des Trempées. Oui, je l'entends encore, de sa voix soudain hantée, décrire, avec cette apparente froideur que souvent lui reprochait ma mère, l'ultime regard de son ami, tout à la fois surpris et navré, qui résumait à lui seul une vie de sacrifice et de liberté. La larme à l'œil, qu'il aurait sans doute imputée si mon père et moi avions eu le malheur de la lui faire remarquer à la fraîcheur du vent, il convoquait ses morts. Deux ou trois fois, il lui est arrivé de mentionner le prénom de sa première femme, ma grand-mère Louise. Il se figeait alors, comme on s'attarde au droit d'un guet dont on ignore la profondeur. Jusqu'à notre retour à la maison, il ne décrochait plus une parole. Mais, en réalité, sa conversation tournait la plupart du temps autour du horn. Dans sa bouche, c'était un animal, un monstre mythique, dont la carapace, falaises et crevasses cousues entre elles, plongeait dans une mer grosse et peuplée de milliers d'âmes en peine, une garce de bête légendaire, dont le mufle menaçant, selon lui soufflant les trois quarts de l'année bourrasques et pluies farouches, n'apparaissait qu'à l'occasion, toujours brièvement. Il racontait les tempêtes, les brisants, le blizzard, les paquets de mer, le jour et la nuit finissant par se confondre, le froid qui laissait les doigts, pourtant badigeonnés de vaseline et emmaillotés dans de fines bandelettes de toile, gourds et impuissants. Il disait les hommes perdus là-dedans, lourdement harnachés de bottes et de casaques, perchés dans une mâture chaque jour plus chahutée et risquant leur vie à tout instant. Je sentais en lui une tendresse pour ces lieux rugueux et pour ceux qui, les affrontant, n'avaient jamais douté de lui. 32 costauds, pour ainsi dire un seul et même morceau de barbaque, plaisantait-il. Des ardents, des courageux, durs au mal, ivrognes à terre, bagarreurs et fraternels, prenant toujours soin de jeter par-dessus le bord avant d'embarquer la petite monnaie qu'il n'avait pas gaspillée avec les putains. Blasphémant du matin au soir, mais capables, sur un coup de sifflet, de donner leur vie de chien pour sauver celle du salopard qu'une minute plus tôt ils auraient étripé pour un quart de vin. Une violence inouïe, pour peu qu'elle accepte d'être domptée, et d'elle-même se remette dans les mains de son capitaine, seul maître après Dieu. Sa chair avait fondu et sa carcasse n'était plus qu'une cage vide où montait et descendait un souffle cru. De l'élan barbare qui avait été le sien, avant les deux guerres, avant cette jambe bêtement fracassée, il ne demeurait dans les yeux marqués d'un cercle plus pâle que de brefs éclats. Mais il fallait l'entendre vous parler de Valparaiso, de Carthagène, de Buenos Aires, de toutes ces villes blanches ou rousses, couvertes d'or ou de poussière, entourées de remparts ou simplement cernées de récifs, pour réaliser combien il était et demeurerait jusqu'à sa mort différent de nous. Le sang farouche qui coulait dans ses veines l'avait poussé au sacrifice et le reste du temps l'avait condamné au silence. L'océan l'avait appelé et continuait de le réclamer. Il ne comptait plus les fois où il avait fourré sa tête de pioche dans la gueule des ouragans, ni celle où, parvenu à terre et s'épuisant dans l'alcool, il avait beuglé dans les bras languides de filles de peu. Il n'avait eu qu'une Bible, les instructions nautiques, et pour les prières, un jargon que ne peuvent comprendre que ceux qui ont vu un ami se fracasser sur le pont ou disparaître par-dessus bord. L'horizon, après lequel mon père et moi n'avions pas couru, était pour lui pareil à un coffre à bijoux grand ouvert. C'était Horn, un roman d'Alain Emery, paru aux éditions Terre du Couchant en 2021. Cette émission était réalisée par Frédéric Guyon. Vous avez pu entendre en interlude musical l'ouverture du Don Giovanni de Mozart sous la direction du chef hongrois Ferenc Fricsay, enregistré en 1959. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne soirée et de vous dire à la semaine prochaine.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.